12e. Devoir de compréhension orale. Préparez-vous au devoir numéro 1. Vous avez une minute à votre disposition. Prenez connaissance du devoir. Première écoute.
Alors, que sont les bobos ? Les bobos signifient, en réalité, bourgeois bohème. Alors, bourgeois bohème, c'est en fait un nom qui a été inventé par un journaliste américain. C'est sorti la première fois dans un journal américain. Et puis, ce terme de bobo a été utilisé un petit peu après par tout le monde, et surtout en France, où ça s'est imposé. Alors, que sont les bobos ? Les bobos, c'est une catégorie sociale qui n'est pas reconnue exactement par les sociologues, mais c'est plutôt tout reconnu par les journalistes, mais ça correspond quand même à une réalité. Je vais essayer de vous les décrire en quelques minutes, même si c'est pas facile. Donc voyons voir. Ce sont des personnes en général entre 30 et 50 ans plutôt, qui ont un pouvoir d'achat important, c'est-à-dire qui gagnent relativement bien leur vie, qui gagnent de l'argent, et qui sont plutôt tendance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être tendance ? Ça veut dire être à la mode, être in. Donc, des gens qui sont dans l'air du temps, qui ont des idées à la mode aussi, comme par exemple les idées écologistes, les écolos, qui en France en ce moment c'est à la mode. Bon, je vous parle actuellement en début 2014, hein, peut-être que ça changera, mais donc des idées écolos, alors ils peuvent être de gauche ou de droite. En général, donc, ils ont de l'argent. Donc, c'est pas les nouveaux riches qui montrent tout de suite leur argent. Ils sont plus raffinés quand même. Ils sont même un peu artistes. Mais ils peuvent très bien, par exemple, rouler en 4x4. 4x4, c'est la voiture tout terrain. Et en même temps, ils peuvent tout à fait aimer le vélo et se vanter d'utiliser le vélo comme un bon écolo. Bon, ils sont assez soignés, hein, même soignés, ils font attention à leur tenue vestimentaire, à leur style, donc ils peuvent s'habiller par exemple chez Diesel, des marques comme ça, assez branchées, assez connues, un peu chères, ils habitent dans des quartiers agréables, leurs enfants en général vont plutôt dans des écoles privées, donc ils aiment bien se vanter d'être dans l'air du temps, en même temps ils ne sont pas nouveaux riches, parce que les nouveaux riches sont beaucoup moins raffinés et montrent plus leur argent, eux les bobos sont quand même plus fins. Ils travaillent en général dans des métiers aussi assez modernes, comme par exemple, ça peut être dans l'informatique, dans les médias, ou bien dans la mode, dans ce style de le design, la décoration, ou le marketing par exemple. Et donc voilà, une génération en fait, bon, qui est un peu la mienne, qui a grandi, des gens qui maintenant ont dans les 40 ans, et qui sont nés dans des années quand même assez prospères, qui n'ont pas connu la guerre par exemple, qui ont connu toujours une société confortable et avec un pouvoir d'achat donc assez important.
Vous avez une minute avant la deuxième écoute. Complétez le devoir. Deuxième écoute.
Alors, que sont les bobos ? Les bobos signifient, en réalité, bourgeois bohème. Alors, bourgeois bohème, c'est en fait un nom qui a été inventé par un journaliste américain. C'est sorti la première fois dans un journal américain. Et puis, ce terme de bobo a été utilisé un petit peu après par tout le monde, et surtout en France, où ça s'est imposé. Alors, que sont les bobos ? Les bobos, c'est une catégorie sociale qui n'est pas reconnue exactement par les sociologues, mais c'est plutôt tout reconnu par les journalistes, mais ça correspond quand même à une réalité. Je vais essayer de vous les décrire en quelques minutes, même si c'est pas facile. Donc voyons voir. Ce sont des personnes en général entre 30 et 50 ans plutôt, qui ont un pouvoir d'achat important, c'est-à-dire qui gagnent relativement bien leur vie, qui gagnent de l'argent, et qui sont plutôt tendance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être tendance ? Ça veut dire être à la mode, être in. Donc, des gens qui sont dans l'air du temps, qui ont des idées à la mode aussi, comme par exemple les idées écologistes, les écolos, qui en France en ce moment c'est à la mode. Bon, je vous parle actuellement en début 2014, hein, peut-être que ça changera, mais donc des idées écolos, alors ils peuvent être de gauche ou de droite. Et en général, donc, ils ont de l'argent. Donc, c'est pas les nouveaux riches qui montrent tout de suite leur argent. Ils sont plus raffinés quand même. Ils sont même un peu artistes. Mais ils peuvent très bien, par exemple, rouler en 4x4. Un 4x4, c'est la voiture tout terrain. Et en même temps, ils peuvent tout à fait aimer le vélo et se vanter d'utiliser le vélo comme un bon écolo. Bon, ils sont assez soignés, hein, même soignés, ils font attention à leur tenue vestimentaire, à leur style, donc ils peuvent s'habiller par exemple chez Diesel, des marques comme ça, c'est assez branché, assez connu, un peu cher, ils habitent dans des quartiers agréables, leurs enfants en général vont plutôt dans des écoles privées, donc ils aiment bien se vanter d'être dans l'air du temps, en même temps ils ne sont pas nouveaux riches, parce que les nouveaux riches sont beaucoup moins raffinés et montrent plus leur argent, eux les bobos sont quand même plus fins. Ils travaillent en général dans des métiers aussi assez modernes, comme par exemple, ça peut être dans l'informatique, dans les médias, ou bien dans la mode, dans ce style de le design, la décoration, ou le marketing, par exemple. Et donc voilà, une génération en fait, bon, qui est un peu la mienne, qui a grandi, des gens qui maintenant ont dans les 40 ans et qui sont nés dans des années quand même assez prospères, qui n'ont pas connu la guerre, par exemple, qui ont connu toujours une société confortable et avec un pouvoir d'achat donc assez important.
Vous avez une minute à votre disposition. Finissez le devoir. Préparez-vous au devoir numéro 2. Vous avez une minute à votre disposition. Prenez connaissance du devoir. première écoute.
Le train de 17h32. Nous sommes le 14 février 1954, à la gare de Toulouse. Monsieur Grand s'apprête à prendre le train pour se rendre chez ses amis, Monsieur et Madame Laffitte, qui l'ont invité pour le week-end dans leur propriété privée près de Marmande. Il est exactement 17h32 quand le chef de gare siffle pour annoncer le départ du train. Monsieur Grand s'installe dans son compartiment. Il s'apprête à lire le journal qu'il a acheté pour l'occasion, mais il vient de finir sa semaine de travail et il est un peu fatigué. Il commence à rêvasser. Et puis, finalement, bercé par le ronron du train, il finit par s'endormir totalement. À la sortie de la gare de Montauban, le bruit de la porte du compartiment réveille soudainement Monsieur Grand. Un homme de grande taille était entré dans le compartiment.
« Excusez-moi, monsieur, je suis navré. Je crois que je vous ai réveillé. »«
Oh, ce n'est pas grave. Mais je vous connais, il me semble. Vous n'êtes pas Albert ?»«
Albert... Albert Lemoine, tout à fait. Nous nous sommes rencontrés l'année dernière au réveillon du Nouvel An chez les Laffitte. »
Bien sûr, comment allez-vous ? Une longue conversation avait commencé entre les deux hommes. Mais alors que le nouvel arrivé parlait, Monsieur Grand pensait, comme il a vieilli. Et qu'est-ce qu'il est blanc ? Que lui est-il arrivé ? Ce teint si pâle ! Il n'a vraiment pas bonne mine, mon Dieu !
Mais dites-moi, où allez-vous donc comme ça, Monsieur Grand ?
Eh bien, justement, je me rends chez mes amis Monsieur et Madame Laffitte. Et vous, monsieur le moine ?
Oh, je descends bientôt, à Agen. J'ai des affaires à régler. Mais s'il vous plaît, ne manquez pas de saluer monsieur et madame Laffitte de ma part, je vous prie.
Avec grand plaisir. Puis monsieur le moine rajouta.
Et surtout, dites à madame Laffitte de penser à ramoner la cheminée du petit salon.
Oh, bien entendu, je n'y manquerai pas. Mais tout en disant ces mots, monsieur Grand pensait. Quel étrange message. Pourquoi la cheminée du salon ? Pourquoi me parler de ramonage ?
Vous avez une minute avant la deuxième écoute. Complétez le devoir. Deuxième écoute.
Le train de 17h32. Nous sommes le 14 février 1954, à la gare de Toulouse. Monsieur Grand s'apprête à prendre le train pour se rendre chez ses amis, Monsieur et Madame Laffitte, qui l'ont invité pour le week-end dans leur propriété privée près de Marmande. Il est exactement 17h32, quand le chef de gare siffle pour annoncer le départ du train. Monsieur Grand s'installe dans son compartiment. Il s'apprête à lire le journal qu'il a acheté pour l'occasion, mais il vient de finir sa semaine de travail et il est un peu fatigué. Il commence à rêvasser. Et puis, finalement, bercé par le ronron du train, il finit par s'endormir totalement. À la sortie de la gare de Montauban, le bruit de la porte du compartiment réveille soudainement Monsieur Grand. Un homme de grande taille était entré dans le compartiment.
« Excusez-moi, monsieur, je suis navré. Je crois que je vous ai réveillé. »«
Oh, ce n'est pas grave. Mais je vous connais, il me semble. Vous n'êtes pas Albert ?»«
Albert... Albert Lemoine, tout à fait. Nous nous sommes rencontrés l'année dernière au réveillon du Nouvel An chez les Laffitte. »
« Bien sûr !» «
Comment allez-vous ? Une longue conversation avait commencé entre les deux hommes. Mais alors que le nouvel arrivé parlait, Monsieur Grand pensait « Comme il a vieilli !» Et qu'est-ce qu'il est blanc ? Que lui est-il arrivé ? Ce teint si pâle ! Il n'a vraiment pas bonne mine, mon Dieu !
Mais dites-moi, où allez-vous donc comme ça, Monsieur Grand ?
Eh bien, justement, je me rends chez mes amis Monsieur et Madame Laffitte. Et vous, Monsieur le Moine ?
Oh, je descends bientôt, à Agen. J'ai des affaires à régler. Mais s'il vous plaît, ne manquez pas de saluer Monsieur et Madame Laffitte de ma part, je vous prie.
Avec grand plaisir. Puis Monsieur le Moine rajouta.
Et surtout, dites à Madame Laffitte de penser à ramoner la cheminée du petit salon.
Oh, bien entendu, je n'y manquerai pas. Mais tout en disant ces mots, Monsieur Grand pensait. Quel étrange message. Pourquoi la cheminée du salon ? Pourquoi me parler de ramonage ?
Vous avez une minute à votre disposition. Finissez le devoir. Préparez-vous au devoir numéro 3. Vous avez une minute à votre disposition. Prenez connaissance du devoir. Première écoute.
Bonjour Karl Marletti.
Bonjour.
Ça fait 30 ans, je fais votre portrait un peu rapidement, oui. 30 ans que vous êtes pâtissier, 14 ans passé au Café de la Paix.
Tout à fait.
Avant cela, les maisons Le Nôtre,
oui.
Potel et Chabot, qui est un traiteur de luxe qui fait aussi de la pâtisserie. Vous avez ouvert votre propre boutique de pâtisserie il y a 10 ans, dans le quartier Mouffetard à Paris, dans le 5e arrondissement.
Oui.
Alors, vous avez un CV impressionnant, vous avez été meilleur pâtissier de l'année en 2009,
oui.
Meilleure tarte au citron, meilleur millefeuille, meilleur frais. Fraisier de Paris. Au début de l'année 2005, vous avez réinterprété un incontournable de la pâtisserie française, le millefeuille. Et vous avez créé à ce moment-là le 500 feuilles.
Voilà, à l'époque où je travaillais au Café de la Paix.
C'est ça, le 500 feuilles, c'est donc au fond un millefeuille un peu plus léger.
Plus léger, c'est la moitié d'un millefeuille.
Oui, comme son nom l'indique.
Comme son nom l'indique. Mais c'était un souhait au niveau de ma direction générale et au niveau du service de la restauration. Alors, c'est ce que j'ai toujours au niveau de la clientèle. On a 80% une clientèle féminine.
Oui.
Les femmes sont très gourmandes, mais c'est vrai que le millefeuille du Café de la Paix était assez généreux. Et souvent, elles me demandaient un millefeuille coupé en deux.
Alors, il a été ce gâteau, si j'ai bien vu, dessiné par un certain nombre de grands noms de la haute couture.
Avec Stella Cadente, Agatha Ruiz de la Prada, Chantal Thomas.
Est-ce que ça veut dire que vous concevez vos gâteaux comme des œuvres d'art?
Ben, c'est important. La pâtisserie, avant tout, on va la voir au niveau du visuel, donc esthétiquement, pour moi, la pâtisserie, c'est de l'élégance et je rapproche beaucoup aussi la pâtisserie par rapport à la féminité. quelque chose de délicat, d'élégant et désirable. Donc voilà, mais pour moi le goût et l'esthétique doivent être au même niveau, c'est vraiment important. C'est vrai qu'aujourd'hui des fois on voit des choses très belles, mais quand on va les goûter gustativement, on va être un petit peu déçu parce que ça va être un peu sucré, ça manquait de texture. Voilà, moi je conçois aussi mes gâteaux un peu comme un architecte où je vais avoir une...
Ça vous demande combien de temps entre la naissance d'une idée et la création d'un gâteau?
Alors ça va dépendre des périodes de mon état général, parce que forcément plus on est fatigué, moins on a d'inspiration, ouais. Et on a du mal à se concentrer. Après, pour moi, pour toutes les sources d'inspiration, ça peut être à l'occasion d'un voyage, une visite de musée, ou en discutant parfois avec ma clientèle ou des amis. Donc des fois, il y a un gâteau que je peux créer dans la journée, et des fois, ça va mettre... une petite semaine, un mois à élaborer, parce qu'on va refaire le gâteau au niveau texture. Parce que moi j'aime vraiment avoir des gâteaux structurés, voilà, où il se passe quelque chose. Quand on crée un gâteau, on doit raconter une histoire. Donc
et ça passe par le dessin, hein. Il y a des étapes dessinées,
c'est important de dessiner, ouais. Voilà, de dessiner son gâteau, parce qu'on va voir un peu le visuel et voir un peu la construction et l'architecture du gâteau. Donc ouais, je dessine pas systématiquement, mais ça m'arrive parfois.
Vous avez un ou plusieurs ingrédients de prédilection que vous préférez travailler?
Moi, j'adore le chocolat. Ouais. Donc je suis un fan de chocolat, mais j'aime beaucoup aussi les essences de fleurs, les épices. Enfin, il y a beaucoup de produits, mais c'est vrai que bon, j'ai une affection pour le chocolat.
Essence de fleurs, on trouve quoi?
Alors essence de fleurs, moi je travaille principalement l'essence de rose. Donc je travaille avec une biologiste, ouais. Qui est sur Grasse. Qui fait vraiment des produits exceptionnels, des essences de rose naturelles. Je travaille aussi l'ylang ylang, la violette aussi beaucoup.
Vous avez 2 minutes avant la deuxième écoute. Complétez le devoir. Deuxième écoute.
Bonjour Karl Marletti.
Bonjour.
Ça fait 30 ans, je fais votre portrait un peu rapidement, oui. 30 ans que vous êtes pâtissier, 14 ans passés au Café de la Paix.
Tout à fait.
Avant cela, les maisons Le Nôtre,
oui.
Potel et Chabot, qui est un traiteur de luxe qui fait aussi de la pâtisserie. Vous avez ouvert votre propre boutique de pâtisserie il y a 10 ans, dans le quartier Mouffetard à Paris, dans le 5e arrondissement. Oui. Alors, vous avez un CV impressionnant, vous avez été meilleur pâtissier, merci. De l'année en 2009.
Oui.
Meilleure tarte au citron, meilleur millefeuille, meilleur frais. De Paris. Au début de l'année 2005, vous avez réinterprété un incontournable de la pâtisserie française, le millefeuille, et vous avez créé à ce moment-là le 500 feuilles.
Voilà, à l'époque où je travaillais au Café de la Paix.
C'est ça, le 500 feuilles, c'est donc au fond un millefeuille un peu plus léger.
Plus léger, c'est la moitié d'un millefeuille.
Ouais, comme son nom l'indique.
Voilà, comme son nom l'indique. Mais c'était un souhait au niveau de ma direction générale et au niveau du service de la restauration. Alors, c'est ce que j'ai toujours au niveau de la clientèle. On a 80% chez une clientèle féminine.
Oui.
Les femmes sont très gourmandes, mais c'est vrai que le millefeuille du Café de la Paix était assez généreux. Et souvent, elles me demandaient un millefeuille coupé en deux.
Alors, il a été ce gâteau, si j'ai bien vu, dessiné par un certain nombre de grands noms de la, voilà, de la haute couture.
Avec hein. Stella Cadente, Agatha Ruiz de la Prada, Chantal Thomas.
Est-ce que ça veut dire que vous concevez, est-ce que ça veut dire que vous concevez vos gâteaux comme des œuvres d'art?
Ben, c'est important, la pâtisserie avant tout, enfin, on va la voir au niveau du visuel, donc esthétiquement, pour moi, la pâtisserie, c'est de l'élégance et je rapproche beaucoup aussi la pâtisserie par rapport à la féminité, quelque chose de délicat, d'élégant et désirable. Donc voilà, mais pour moi, le goût et l'esthétique doivent être au même niveau, c'est vraiment important. C'est vrai qu'aujourd'hui, des fois, on voit des choses très belles, mais quand on va les goûter gustativement, on va être un petit peu déçu, parce que ça va être un peu sucré, ça va manquer de texture. Voilà, moi, je conçois aussi mes gâteaux un peu comme un architecte où je vais avoir une...
Ça vous demande combien de temps entre la naissance d'une idée et la création d'un gâteau?
Alors ça va dépendre des périodes de mon état général, parce que forcément plus on est fatigué, moins on a d'inspiration, ouais. Et on a du mal à se concentrer. Après, pour moi, pour toutes les sources d'inspiration, ça peut être à l'occasion d'un voyage, une visite de musée, ou en discutant parfois avec ma clientèle ou des amis. Donc des fois, il y a un gâteau que je peux créer dans la journée, et des fois, ça va mettre une petite semaine, un mois à élaborer, parce qu'on va refaire le gâteau au niveau texture. Parce que moi, j'aime vraiment avoir des gâteaux structurés. Voilà, où il se passe quelque chose. Quand on crée un gâteau, on doit raconter une histoire. Donc.
Et ça passe par le dessin. Hein. Il y a des étapes dessinées.
C'est important de dessiner, de dessiner son gâteau, parce qu'on va voir un peu le visuel et voir un peu la construction et l'architecture du gâteau. Donc ouais, je dessine pas systématiquement, mais ça m'arrive parfois.
Vous avez un ou plusieurs ingrédients de prédilection que vous préférez travailler?
Moi, j'adore le chocolat.
Ouais.
Donc je suis un fan de chocolat, mais j'aime beaucoup aussi les essences de fleurs. Les épices, enfin il y a beaucoup de produits, mais c'est vrai que j'ai une affection pour le chocolat.
Essence de fleurs, on trouve quoi?
Alors essence de fleurs, moi je travaille principalement l'essence de rose, donc je travaille avec une biologiste qui est sur Grasse, qui fait vraiment des produits exceptionnels, des essences de rose naturelles. Je travaille aussi l'ylang-ylang, la violette aussi beaucoup.
Vous avez une minute à votre disposition. Finissez le devoir.
Fin de l'épreuve de compréhension orale. Rendez vos devoirs au professeur.